Suite la rediffusion du libre journal de Serge de Beckett chez d'hier soir, il est 2h.
Radio Courtoisie.
Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel
et de la francophonie. Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national à Paris sur 95,6 MHz, à Caen sur 100,6, à Chartres sur 104,5, à Cherbourg sur 87,8, au Havre sur 101,1, au Mans sur 98,8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS et pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous écoutez le libre journal de Serge de Beketch, dirigé ce soir par Daniel Amiche, diffusé en direct mercredi 16 août 2000 de 18h à 21h, en différé jeudi 17 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal est réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 250 francs. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85 ou par télécopieur au 01 46 51 21 82.
Eh bien, bonsoir aux auditeurs et aux auditrices, évidemment, qui nous rejoignent pour ce libre journal de Serge de Beketch. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 16 août. Et bonjour par avance, évidemment, à ceux qui vont nous réécouter ou nous écouter demain matin dans les deux rediffusions matinales. Alors, j'ai un message. Avant même que je commence, il y a des messages qui arrivent. On me demande de parler, de préférence, pas trop vite et de laisser parler mes invités. Alors, je vais essayer de ne parler pas trop vite et de laisser parler mes invités s'ils ont quelque chose d'intéressant à dire. Voilà. Alors, dans le studio, Guy Le Hideux.
Oui, bonsoir.
Connu de nos auditeurs, pilier de cette émission.
Oh.
Et pilier de quelques barres de...
Oh non.
Qui vient nous parler ce soir, qui est un spécialiste en histoire de la bande dessinée. Il va nous parler un petit peu de la bande dessinée de droite. Existe-t-il une bande dessinée de droite? Voilà une question qu'elle est bonne. Et puis également dans le studio, pour cette première partie d'émission, Hugues de Soicourt.
Bonsoir.
Qui est le directeur de la rédaction du Légitimiste, qui a beaucoup de choses à nous dire, je pense. Hein. Enfin, vous direz au fur et à mesure. Hein. Puis tout à l'heure, on aura une personne au téléphone que les auditeurs aiment bien, en tout cas les auditeurs du Libre Journal de Serge Beckel, j'aime bien. Puis en deuxième partie, nous aurons encore d'autres choses à discuter. Cher Guy Le Hideux, alors, la bande dessinée de droite, parce que quand on regarde dans les grands magasins, vous savez, c'est... supermarché du livre
et qu'on dit de la culture.
Dit de la culture, précise M. de Soicourt, et qu'on feuillette les bandes dessinées, ce qui m'est pas arrivé quand même depuis très très longtemps, je dois l'avouer à ma grande honte, on s'aperçoit quand même qu'elles sont, la plupart sont quand même très très mal orientées. Enfin, oui. Elles sont orientées à gauche, donc c'est très mal orienté. Elles sont assez crades, pour employer un langage de jeunes.
Pas toutes.
Alors vous dites qu'il existe une des bandes dessinées de droite. C'est possible, ça existe,
ces oiseaux rares? Bien sûr. Mais la bande dessinée est née à droite. Et c'est à partir de 68 la gauche, que la gauche a dit, oui, tiens, la bande dessinée, mais comme c'est intéressant, on va l'utiliser comme outil de propagande.
La reine Bathilde, c'est ça, l'épouse de Guillaume le Conquérant, elle n'était pas franchement de gauche.
On peut remonter encore plus loin, on peut remonter aux Grecs, aux Égyptiens.
Aux Égyptiens, oui, c'est vrai qu'ils n'étaient pas très de gauche.
Hein. Oui.
Bon, mais alors, pour parler de la bande dessinée, ce qu'on appelle la bande dessinée, quoi, c'est-à-dire les Mickey, quoi, les dessins avec des bulles autour, alors, de droite, c'est l'origine de droite,
Je crois, vous savez, à l'époque, puisque la bande dessinée est née vers 1825-1830, c'est un Suisse qui l'a inventé. Ah. Il s'appelait Rodolphe Töpffer.
Töpffer,
oui. Vous savez, je pense qu'on ne se posait pas le problème à l'époque.
La gauche n'existait pas encore.
Si, elle existait, mais enfin, bon, on ne se posait pas le problème. Je crois que le problème s'est posé à partir de, disons, des années 60, 68.
De notre siècle, enfin, du siècle qui se termine.
Oui, oui. C'est 68 qui a été le grand détonateur, et la gauche a dit, ben, comme je vous l'ai dit, tiens, comme c'est intéressant, on va l'utiliser comme outil de propagande. Et puis, évidemment, dans la mouvance de 68, eh bien, tous les éditeurs ont emboîté le pas, même ceux qui étaient à droite. Alors je cite des noms, par exemple les éditions du Puy, Belges.
Oui, c'était, hein,
c'était quand même assez à droite. Eh bien, ils se sont orientés
du
carrément.
Du Puy, c'était quoi? C'était Spirou.
C'était Spirou, tout à fait. Bonne soirée, le moustique, etc.
C'était l'oncle Paul. C'était pas chez Spirou. C'était ça. C'était chez
Dupuy.
Bien sûr.
Même des maisons d'édition catholiques comme Bayard Presse et puis Fleurus. Eh bien, se sont progressivement orientés à gauche. Ils ont suivi le mouvement.
Oui. C'est joli parce que Bayard est un grand héros français, Fleurus une grande victoire française.
Voilà, exactement. Et ce qui est très curieux, c'est que la gauche a utilisé ce moyen d'expression, cet art, puisque la bande dessinée, c'est un art à part entière. On rappelle que c'est le 9e art.
Et qu'est-ce qui a décidé que ce serait le 9e art?
Alors là, très bonne question. Je serais incapable de vous répondre, mais ça a été décidé.
Vous êtes sûr que c'est un art?
Ah oui, c'est un art. C'est un art. La bande dessinée, qu'est-ce que c'est? Tiens, bonne question.
Oui, qu'est-ce que c'est que la bande
dessinée? Eh bien, c'est le mariage, c'est l'union, dans le sens biblique du terme, du dessin et du texte, et d'un texte. La bande dessinée, c'est une histoire qui est racontée par l'image, par le dessin. D'ailleurs, dès 1825, je vous parlais du créateur de la bande dessinée, Rodolphe Töpffer, il a écrit quelque part, que dans un petit livre de théorie, que la bande dessinée, c'était le mariage indissoluble du dessin et de l'image.
Non, du dessin et du texte.
Du dessin et du texte, excusez-moi.
Mais qu'est-ce qu'il dessinait, Monsieur Töpffer?
Il dessinait justement dans...
Guillaume
Tell. Il faut vous dire, j'ouvre une parenthèse, que j'ai fait un dossier... Non, pas du tout. J'ai fait un dossier sur cette bande dessinée de droite dans Français d'abord, du mois dernier. Donc vous pouvez vous procurer ce journal.
Ça s'appelle La BD de droite existe.
Voilà. Vous pouvez vous procurer ce dossier dans Français d'abord du mois dernier, en écrivant un Français d'abord.
Ah ben, on va peut-être donner l'adresse de Français d'abord, quand même, ce serait sympathique.
Hein. Alors, que je trouve l'adresse?
Moi, je l'ai. C'est la boîte postale 290, boîte postale 290, 92212, c'est boîte postale, 92212, Saint-Cloud, Cedex.
Voilà, alors, Rodolphe Töpffer dessinait et écrivait des histoires en estampes. Ça n'existait pas, le terme bande dessinée à l'époque. On appelait ça les histoires en estampes. Notamment les histoires du docteur Festus et d'autres.
Mmh. Alors que le docteur Festus, il y a des images là
Oui, il y a des images, oui. Dans le dossier, il y a une reproduction du petit fascicule.
Ah oui, d'accord.
Voilà. Ça y est, mais il n'y avait pas de bulle à l'époque. Il n'y avait pas encore de bulle.
Voilà, collection des histoires en estampes de Rodolphe Töpffer, le docteur Festus.
Voilà.
À Genève, en 1840... J'arrive pas à bien voir, c'est 46. 1846 à Genève.
À Genève, oui. Oui, je disais donc que la bande dessinée, du temps de Töpffer, il n'y avait pas de bulles. Hein. Les bulles sont venues progressivement. Oh, les bulles apparaissent quand même à la fin du 19e siècle. Les Américains l'ont beaucoup utilisé avant les Français même.
Alors comment ça se présentait? Donc c'était des images et puis il y avait un texte en dessous.
Oui, tout à fait. D'ailleurs en France, on a été très très long à admettre les bulles. Il y en avait quand même un petit peu. Regardez par exemple.
Toutes les vitres saintes étaient avec
du texte en dessous. Par exemple, les pieds nickelés, on va en parler dans quelques instants.
Ah bah tiens, on va faire un petit. Parce que l'autre jour, on a discuté, n'est-ce pas, avec vous, monsieur de Soicourt, j'ai discuté
exactement
de ça, et je ne me souvenais plus des noms des trois pieds nickelés. On va demander à nos auditeurs s'ils se souviennent du nom des trois pieds nickelés.
Et alors, peut-être question subsidiaire, qui est Coco Belœil dans le...
Ah oui, alors il y a quelqu'un qui s'appelle Coco Belœil, je ne sais pas lequel, ça existe, mais je ne sais plus lequel que c'est. Par contre, quel était le nom des trois pinéclistes? C'est amusant, oui, tu as un petit concours d'été, oui, ça va ravir notre
scriptoria. On complique encore la question en demandant le nom de l'auteur. Non, allez,
simplement les noms des trois pieds nickelés. Oui. Enfin, c'est pour nos auditeurs qui ont mon âge, quoi, parce qu'ils ont connu ça. Donc, vous appelez au 01 46 51 00 85. Ça va vous rafraîchir la mémoire et nous faire revenir un peu en arrière.
Oui, alors, donc, les pieds nickelés, par exemple, pour parler de l'apparition des bulles, les pieds nickelés, c'est un petit peu la transition. Il y avait encore le texte en dessous les images, et puis quelquefois, il y avait une bulle qui apparaissait. Par exemple, O, A,
une
onomatopée.
Ou un bruit.
Oui. Mais par exemple, aux États-Unis, la bulle est apparue dès la fin du 19e siècle.
Vous dites que les pieds nickelés, c'est une bande dessinée de droite? Parce que les pieds nickelés, c'est plutôt des anards.
C'est des anards, disons, de droite.
Oui, des anards de droite.
Puisqu'on les voit quand même combattre pendant la guerre de 14-18. Là, ils vont vraiment se faire casser la figure. Et vraiment, ils y vont de bon cœur. Donc, on peut les classer comme... Mais je pense que les pieds nickelés, c'est un petit peu comme Astérix. On en parlera aussi d'Astérix.
Vous étiez traître quand vous disiez... est-ce qu'on peut poser une question subsidiaire? Qui est le dessinateur des pieds nickelés? Il y a eu deux dessinateurs successifs.
Il y en a eu deux, il y en a même plus que ça.
Enfin, moi,
il y en a eu trois ou quatre. Il y en a eu deux grands, disons. Le père des pieds nickelés, c'est Louis Forton.
Louis Forton.
Et puis, il y a eu surtout René Pélos qui a repris les pieds nickelés après-guerre.
Avec un dessin que je trouve très intéressant.
Un dessin superbe, très dynamique. Ah, il faut vous dire, on pourrait même faire une émission un jour sur René Pélos, qui est malheureusement décédé il y a quelques années. Il est décédé à presque 100 ans. Il avait 98 ans. C'était un très grand dessinateur et illustrateur sportif. Il dessinait aussi bien des dessins humoristiques comme les pieds nickelés que des dessins vraiment très réalistes.
C'est un collaborateur du Miroir du Spring.
Oui, bien sûr, l'équipe, etc. Oui. Oui, les pieds nickelés, moi je dis que ce sont des sortes de...
Des anards de droite.
Des anards de droite, allez. On va peut-être passer en revue tout ce que... Oui, avant de faire une énumération des dessinateurs et des bandes dessinées que j'ai recensées comme étant de droite, je voudrais revenir à ces gauchistes qui ont mis la main sur la bande dessinée. Par exemple, à l'heure actuelle, vous écoutez la bande FM. Il y a beaucoup d'émissions consacrées à la bande dessinée qui durent entre une demi-heure et deux heures, vous rendez compte?
C'est énorme.
Radio Libertaire a une très grosse émission tous les samedis sur la bande dessinée. Il y a aussi France Culture et d'autres radios. À droite, il y a Radio Courtoisie, heureusement, mais enfin, moi j'interviens,
Mais à part Radio Courtoisie, qu'est-ce qu'il y a comme radio de droite, par Radio Courtoisie?
Ah voilà,
c'est
une bonne question aussi.
Il n'y a que Radio Courtoisie. La culture est massivement à gauche actuellement.
Oui.
Nous avons sous l'influence de la gauche.
D'auditeurs, je crois, non?
Eh bien oui, ça y est. Il y a une dame qui dit, je me souviens des pieds nickelés, Filochard et Rouboudin. Le troisième, je ne m'en souviens plus. Ah. Attendez madame, on va vous le dire. Alors, un auditeur nous dit, c'est Croquignol, Filochard et Rouboudin.
Voilà.
Un autre auditeur, une auditrice nous dit aussi, ce sont les pieds nickelés et Filochard, Croquignol et Rouboudin.
Voilà.
Joli nom quand même, c'était bien français. Et cette même auditrice demande si Guy Louis II considère la famille Fenouillard comme une bande dessinée.
Ah, moi je considère que c'est une bande dessinée. Il y a d'autres spécialistes qui vous diront que non, parce qu'il n'y a pas les fameuses bulles, les fameuses phylactères. Mais il y a quand même une narration, et c'est une bande dessinée, bien que le texte soit sous l'image, oui. Comme Bécassine.
Bécassine, alors l'auteur de Bécassine, c'est Pinchon.
Alors c'est... il y en a deux auteurs,
il y en a même plus
que ça, puisque Bécassine a été créée en 1905, vous rendez compte? Elle a 95 ans, notre petite Bretonne. Et c'est Joseph Porphyre Pinchon qui est le créateur graphique de Bécassine.
Joseph Porphyre Pinchon. Ah oui, quand même que ça de la...
C'est beau.
Ça avait de la classe à l'époque.
C'est joli, appeler un garçon Porphyre quand même.
Bien sûr, elle est née dans la semaine de Suzette, en 1905, dès le numéro 1. Et sa créatrice, parce que c'est une dame qui a écrit le premier scénario, c'est une dame qui s'appelait Jacqueline Rivière. Mais le créateur littéraire, si je peux dire, le plus connu, qui l'a repris au bout de quelques histoires, je crois que c'est vers 1913, c'est Comrie, qui était le neveu de l'éditeur, qui s'appelait, vous allez me le dire tout de suite, Parce que je me retrouve plus dans mes petits papiers pendant que je recherche.
Rien, moi, l'éditeur, vous êtes drôle, moi,
j'en
sais rien, l'éditeur.
Qui s'appelait.
C'est vous qui êtes le spécialiste.
J'ai un trou de mémoire.
Moi, ce que je sais, mais c'est grâce à un auditeur, c'est que on trouve sur un bas-relief assyrien, au musée d'Ankara, donc un bas-relief avec une bulle, c'est-à-dire il y a un texte qui est écrit dans une espèce de petite cartouche au-dessus de personnages. Et on trouve ça au musée hittite d'Ankara, en Turquie. Vous voyez, donc les bulles ont été inventées par les Turcs. Moi, je pensais que c'était les papes qui avaient inventé les bulles.
Par les hittites.
Voilà, merci à l'auditeur.
Non, vous savez les bulles, les bulles d'où ça vient? Les bulles ou phylactères, ça vient du grec phylatéine, qui veut dire protéger, etc.
C'est caché.
Caché, voilà. Eh bien, au Moyen-Âge, il y avait déjà des phylactères. Oui. Vous savez, les statues, par exemple, sur les cathédrales. Les cathédrales, pour moi, les églises, ce sont des bandes dessinées, en quelque sorte. Mm-hmm. Des bandes dessinées sculptées, même. Donc, certains personnages sculptés sur les églises ou les cathédrales, eh bien, ont quelquefois des sortes de, comment on pourrait appeler ça, de nuages qui sortent de leur bouche, qui sont sculptés. Ce sont des phylactères. Et puis dans certains écrits aussi du Moyen-Âge, il y a les personnages qui parlent au moyen de sortes de cartouches avec du texte.
Ça montre que tout ça n'est pas né d'aujourd'hui. Hein.
Et non.
Alors,
je cherche toujours le nom.
Ah ben, tant pis, ça va vous revenir, c'est pas grave.
Je l'ai plus en tête.
C'est pas grave du tout.
Mais oui, Bécassine, c'est une bande dessinée, bien qu'il n'y ait pas de bulle.
Alors, bande dessinée, qu'est-ce qu'on a encore comme
bande dessinée? Eh bien, par exemple, Zygapus, qui est une bande dessinée de droite, vraiment, puisque Alain Saint-Augan était un homme de droite et il s'en est jamais caché.
Moi, j'ai des bons souvenirs radiophoniques d'Alain Saint-Augan, parce que le jeudi après-midi, il y avait une émission qui s'appelle Le Paradis des Animaux.
Oui, c'était entre autres sur Radio Luxembourg, c'était offert par la Vache qui rit, par les fromageries belles, et c'était un quart d'heure tous les jeudis ou tous les samedis.
C'était le jeudi. Le Paradis des Animaux.
Oui, la Vache qui rit au Paradis des Animaux.
Ah, c'est beau.
Et vous savez comment Saint-Augan a eu l'idée de créer cette émission? Eh bien, un jour, il s'entretenait avec Monsieur Bell, donc le fondateur des fameuses fromageries Bell, et Monsieur Bell voulait
malgré son patronyme, ne faisait que du fromage de vache.
Oui, c'est vrai.
Alors, oui, continuez.
Alors, Monsieur Bell voulait relancer la vache qui rit. Et Saint-Augan a dit, mais j'ai une idée, là. Pour relancer la vache qui rit, quoi de mieux que de créer une histoire qui se passerait dans l'éternité? Là, vraiment, elle serait bien située. Et voilà comment est née la vache qui rit au paradis des animaux.
Voilà.
Il a créé donc cette.
J'étais ravi, j'ai des souvenirs vraiment.
Ce feuilleton, parce que c'était pas une bande dessinée, c'est un feuilleton, feuilleton radiophonique. Et si on pouvait retrouver les enregistrements de cette vache qui rit au paradis des animaux, ça serait vraiment extraordinaire. Mais malheureusement.
Alors, tout à l'heure, vous en parliez de Bécassine. Alors, un auditeur nous demande si Bécassine est un personnage de droite ou un personnage de gauche.
C'est plutôt un personnage de droite.
Oui.
D'abord, le journal, La Semaine de Suzette, c'était quand même un journal de droite. Les auteurs aussi étaient quand même à droite et c'était vraiment de bons royalistes. Et puis,
c'est la Bretagne catholique contre la Bretagne laïque, surtout.
Voilà, exactement. Et puis, si on lit les aventures de Bécassine, on voit vraiment que c'est une bande dessinée de droite. Mmh. Parce que, quand même, Bécassine.
Elle défend des valeurs qui sont quand même des valeurs un peu transcendantes.
Voilà, exactement.
Oui, le fait que ça soit né en 1905, qui n'était pas une période très, très rose.
Oui, exactement, on peut le dire.
C'est l'époque de la séparation de l'Église et de l'État.
C'est ça, tout à fait.
Pas de la séparation, de la spoliation de l'Église par l'État.
Oui.
Utilisons toujours les mots qu'il faut, Radio Courtoisie.
Par l'État révolutionnaire.
Par l'État révolutionnaire.
Et il y a une étude d'ailleurs qui vient d'être publiée par les éditions du CNRS sur Bécassine qui s'appelle.
C'est sérieux, alors, ça.
Oui.
Ben, c'est moins drôle à lire peut-être que.
Ça se lit très bien. On peut le recommander aux.
Que des fois je me méfie, CNRS des fois.
Non, là ça se lit très bien. C'est vraiment très très intéressant et la personne qui écrit ça qui s'appelle Marianne Couder, qui est une prof de lettres. C'est une thèse d'ailleurs. Thèse de doctorat, elle conclut que c'était vraiment une bande dessinée de droite.
De droite.
Oui.
Alors, un auditeur voudrait bien savoir, cher Guy Le Hideux, si le sapeur Camembert fait partie de la BD pour vous.
Oui, oui. C'est une histoire racontée.
Au même titre que la famille Fenouillard.
Oui, tout à fait. Il y a le texte en dessous. Il y a certains spécialistes, je le redis encore ici, qui vous diront non, mais Si, si, c'est une bande dessinée.
Voilà, vous voyez qu'on a beaucoup d'auditeurs, parce qu'un auditeur et une auditrice nous signalent que l'éditeur de la semaine de Suzette et, de Bécassine, c'est Gauthier
Langereau. Voilà, merci.
Merci, cher auditeur. Un autre auditeur se souvient d'une, au début des années 70, d'une bande dessinée qui était Pilote, en fait. C'était
un journal
extraordinaire.
Alors, c'est très intéressant.
Dans quelle catégorie classeriez-vous Pilote? Ça, on connaît quelqu'un qui pourrait nous en parler aussi.
Oui.
Et est-ce que vous connaissez la bande dessinée Alix et Lieutenant Blueberry? Et dans quelle catégorie vous les classez?
Alors, Pilote, donc le journal Pilote est né en 1959, en octobre 1959, exactement. Au départ, c'est les éditions d'Argot qui ont lancé ce journal. C'est un journal de droite. Et puis, à partir de 68, eh bien, Pilote, comme beaucoup d'autres journaux, va devenir un journal progressivement dans la mouvance de la gauche.
Et même de la gauche la plus extrême,
oui,
parfois.
Alors, ce qui est intéressant avec Pilote, et d'ailleurs Serge de Becquetsch, qui a travaillé pour le journal Pilote, puisqu'il était scénariste à l'époque, pourrait-vous dire qu'il y avait deux catégories d'auteurs à Pilote. Donc, vous savez que c'était René Goscinny qui était le rédacteur en chef. Et René Goscinny avait à sa droite les fachos, et à sa gauche...
Les progros.
Les gauchos. Et il maintenait une sorte d'équilibre du journal avec ses deux mouvances. Alors, parmi les fachos, on pourrait dire qu'il y avait, bien sûr, Serge, il y avait...
Ça, c'est pas bien d'insulter les gens quand ils sont pas là.
Oui, c'est pas les insulter. Il y avait, justement, Jean-Michel Charlier, et qui était, malheureusement, puisque vous savez qu'il n'est plus parmi nous, qui était le scénariste de Lieutenant Blueberry, pour répondre à l'auditrice, je crois.
Oui.
L'auditrice?
L'auditrice, oui.
Il y avait...
Un auditeur,
excusez-moi. Et puis d'autres bandes dessinées, comme pour Spirou, il y avait La Patrouille des Castors. Et pour Pilote, il y avait aussi un jeune scout qui s'appelait Jacques Le Gall.
C'était
dessiné par Michel Tac, qui dessinait aussi La Patrouille de Castor dans Spirou.
C'était très bien, La Patrouille des Castors.
Bien sûr.
C'était très intéressant.
Bien sûr.
Très pratique.
Ah ben oui.
Très très pratique.
Oui, c'était le signe de piste en bande dessinée, on pourrait dire.
C'était très bien. Un auditeur, d'ailleurs, nous prie de souligner, on peut le faire d'ailleurs, à quel point les fameuses histoires de l'oncle Paul, qui était un véritable ravissement pour nous quand on était tout petit, respectaient la plupart du temps très très fidèlement la vérité historique. C'était vraiment des histoires bien pensantes et bien, quoi.
Tout à fait. Et les histoires de l'oncle Paul ont été créées par Jean-Michel Charlier, encore lui, et qui a écrit les premières histoires de l'oncle Paul, et ces histoires de l'oncle Paul étaient dessinées par divers dessinateurs, et c'était extraordinaire, les histoires de l'oncle Paul dans Spirou, parce que c'était un tremplin pour les jeunes dessinateurs.
Beaucoup de talent.
Ah oui, oui.
Mais enfin, l'oncle Paul suçait sa pipe, alors ça c'est...
Oui, avec ses deux neveux.
Politiquement incorrect, de fumer devant les enfants. Très politiquement.
Comme Lucky Luke avec sa cigarette.
Oui, c'est ça, l'adaptation américaine du dessin animé, a perdu sa cigarette pour
un petit blé. Et aussi dans l'adaptation en dessin animé de Tintin, on va en parler aussi de Tintin. Bande dessinée de droite, ça plaira pas à la famille.
Ah oui, mais c'est la vérité.
Tintin, qui, vous savez que le capitaine Haddock est célèbre pour ses jurons, bien sûr, et son whisky, eh bien, dans la version dessin animé, plus de jurons et plus de whisky. Tiens.
Alors, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il boit, alors?
Ben, il doit boire de l'eau.
Le pauvre, mon Dieu.
Parce que les Américains, c'est toujours les Américains, ont jugé que c'était pas...
Sur Lucky Luke, c'est une chose assez troublante. D'ailleurs, il semblerait que le politiquement correct nous incite plutôt à fumer de l'herbe qu'à fumer du tabac.
Ça c'est très bien. Ça c'est très bien, parce que c'est beaucoup moins nocif le hakik. C'est beaucoup moins nocif. Non, mais faut le savoir, ça c'est moins hakik. Le hakik c'est moins nocif que le tabac, c'est bien connu ça. Hein? Ne roulez pas des yeux comme ça. Par contre, un auditeur signale que les textes des pieds-nickelés, des vieilles bandes, étaient écrits toujours en très très bon français.
Oui, c'est vrai.
Et ajoute-t-il, ce qui n'est pas toujours le cas sur Radio Courtoisie. Ça, je pense que c'est pour moi, mais enfin, je lis aussi. Je lis les post-scriptum qui me sont destinés. Alors, autre BD de droite.
De droite, on peut dire qu'Astérix, c'est quand même pas une bande dessinée de gauche, et que Uderzo n'est pas un homme véritablement de gauche, même s'il est chiracien.
Qui ça?
Uderzo.
Il est chiracien.
Oui.
C'est beau ça, je trouve que c'est beau.
C'est de l'abnégation. Et Goscinny, c'était pas quelqu'un de véritablement à gauche.
Encore un bon une auditrice qui nous signale l'éditeur. Alors il y a plein de messages qui arrivent. Décidément, la bande dessinée passionne les auditeurs. Peut-être parce que c'est un sujet d'été, mais enfin moi je trouve que c'est un sujet qui est bon en toute époque. On nous demande une auditrice demande si vous connaîtriez Frisette, qui était publié sans doute dans la semaine de Suzette en feuilleton. Est-ce que vous connaissez cet éditeur? C'est les années 38-40.
Oui, la semaine de Suzette, oui, mais Frisette...
Frisette, ça vous dit pas quelque chose, Frisette? Non, bah, peut-être que ça dira quelque
possible,
chose
là,
à
c'est
un
possible.
Auditeur, donc si ça dit quelque chose
oui,
à un auditeur,
sûr,
bah, c'est 0146-51-0085. Ce serait gentil. Ça me dit vaguement quelque... Le nom me dit vaguement quelque chose, mais peu. Vous parliez tout à l'heure du Suisse Töpfer.
Oui.
Le bon docteur Töpfer. Eh bien, des titres ont été réédités il y a peu d'années, une dizaine d'années,
d'un
auditeur, une auditrice.
C'est
les cauchemars. Notamment les cauchemars, d'un personnage dont l'auditrice aimerait retrouver le nom.
Alors, est-ce que l'auditrice ne confond pas avec une bande dessinée américaine dessinée par Winsor McCay? Peut-être, parce que c'est justement une histoire de cauchemar aussi, qui s'appelle Little Nemo.
Ah, alors là,
vous savez, c'est un petit garçon qui rêve toutes les nuits et à la fin de la bande, donc à la fin de la planche, il se réveille dans son lit,
oui,
qui a été réédité encore
chose,
récemment.
Ça, oui. Et alors, cette même auditrice fait un commentaire sur Töpfer, le bon docteur Töpfer, qui était, moi je ne le connais pas du tout, mais enfin elle dit que c'était un très bon peintre et un admirable dessinateur.
Oui, c'est vrai.
Indépendamment de ses histoires en bande dessinée. Et il a relaté avec talent et humour sous le titre Voyage en zigzag.
Exact.
Abondamment illustré d'images prises de lui-même lorsqu'il faisait ses excursions dans les Alpes avec ses élèves.
Voilà, oui, parce qu'il était enseignant, il enseignait la science naturelle entre autres. Et c'est pour ses élèves qu'il a commencé à faire
ses bandes dessinées.
Ses petites bandes dessinées.
Bon docteur Top. Une autre auditrice demande à Guy Le Hideux, parce que c'est lui, monsieur bande dessinée ce soir. Alors, est-ce que vous vous souvenez d'un livre intitulé Mon petit... Alors, je pense que c'est Mon petit trotté.
Mon petit trotte.
Mon petit trotte et la petite sœur de Trotte, d'André Lichtenberger.
C'était pas de la bande dessinée.
C'est pas de la bande dessinée, non, ça, non, mais il y avait des vignettes avec des textes dessus, dit l'auditrice.
Ah, je me souviens pas, mais je me souviens de romans pour la jeunesse.
Oui, tout à fait.
Bon. Notamment chez Rouge et Or, qui est un éditeur aussi mythique de la jeunesse des années 50.
Oui. Alors, on redonne l'adresse, émission excellente. Attendez, ça fait commencer, monsieur.
Oui,
cher auditeur, on est plus 20 minutes. Attendez, c'est à la fin qu'il faut juger, mais pas au début. En tout cas, c'est très gentil de votre part de nous encourager. Ça nous invite à nous maintenir jusqu'à 9h. Je vais redonner l'adresse donc du journal, le journal dans lequel notre ami Guy Le Hideux a fait ce dossier BD.
Abondamment
illustré, joliment illustré. C'est donc les Français d'abord. Donc le journal du Front National,
oui.
Tendance Jean-Marie Le Pen.
C'est ça, c'est le magazine de Jean-Marie Le Pen.
Jean-Marie Le Pen. Alors c'est boîte postale 299. 92-212, 92-212, Saint-Cloud-Sédex.
Et c'est ce journal voilà. Coûte 15 francs.
Oui, ça c'est peut-être marqué.
Oui, c'est marqué.
Marqué dessus. Voilà,
alors,
donc, c'est marqué. Alors voilà, donc j'ai donné les coordonnées du journal.
Allez-y, avec allez-y. Alain Satogan, je disais donc que c'était vraiment un homme de droite. Il a toujours déclaré, et moi je l'ai bien connu, Alain Satogan, quelques années avant sa mort. Et il m'a même déclaré, il m'a toujours déclaré qu'il restait fidèle au maréchal. Et il n'aimait pas du tout le général de Gaulle.
Hein. Saint-Augan ?
Ah oui, pas du tout.
Mais
pas du tout. Pendant l'occupation, il a fait de nombreuses émissions à la radio, à Radio Vichy, donc la radio nationale. Et il faisait ses émissions pour la jeunesse. Et il faisait aussi des feuilletons de Zig et Puce. Il en a fait aussi. Outre le paradis des animaux que vous citiez tout à l'heure, Daniel, dans les années 50, sur France 2 ou 3, pas la télévision, hein, sur France 2 ou 3, il y avait une émission pour la jeunesse où il y avait Zig et Puce et aussi Monsieur Poche, les aventures de Monsieur Poche, une autre création d'Alain Satogan. Et Monsieur Poche, je dois signaler aux auditeurs que c'est l'ancêtre d'Achille Talon. Vous savez peut-être que...
L'auditeur tient... C'est curieux, vous permettez, là je vous interromps un peu, mais je ne vous interromps pas plus, je vais vous rappeler qui vous savez.
Oui.
Eh bien, nous avons un message d'auditeur de Montréal qui nous capte par l'Internet.
Oh, c'est formidable ça.
Oui, bien sûr. Et qui nous donnait une petite nouvelle. Bon, je pense qu'elle est vraiment très très amusante. Enfin, Jean Chrétien, le Premier ministre, vient de se faire retarder. Il y a moins d'une heure. Pendant un voyage officiel sur l'île du Prince-Édouard.
On a pour idée aussi. Hein.
Sur l'île du Prince-Édouard.
Oui, l'île du Prince-Édouard. Hein. Ouais, c'est du vice. Hein. Oh. Par un monsieur dont je ne dirai pas le nom, parce que c'est dit ici, c'est pas lui, est plutôt anglophone, ce monsieur, j'ai l'impression. Et qui voulait ainsi exprimer son désaccord sur les OMG, c'est ça, les machins.
OGM.
Ouais. OGM, hein, je crois que c'est ça. Et voilà, il a aussi prévu des impôts. Bah, c'est bien. Quand, si jamais nos gouvernements en France vous augmentent les impôts, les maires, les conseillers généraux, entartez-les. C'est pas compliqué. Merci, chers auditeurs et chers cousins d'ailleurs, qui nous appelaient du Canada et qui nous entendaient grâce à Internet depuis Montréal.
Et au sujet de
la belle province.
Au sujet du Québec et au sujet de nos cousins canadiens français, je signale qu'il y a une très intéressante école de bande dessinée québécoise qui mérite vraiment d'être découverte. Oui, oui.
Ah ben,
elle est très peu connue, mais. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'albums qui sont édités en France, mais si vous les trouvez,
C'est absolument incroyable, parce que le nombre de messages est phénoménal, mais c'est des questions qu'on vous pose. Alors, il va falloir... Est-ce que vous pouvez encore rester un
tout petit peu Oui, tout à fait.
À quelle heure vous devez partir, cher...
À 8 heures.
Ah bah c'est très bien. Alors, ce qu'on va faire, si notre camarade le veut bien, nous allons appeler notre correspondant.
Honorable.
Honorable, très honorable correspondant. Et j'espère qu'on va l'avoir. Mais il y a beaucoup, beaucoup de questions qui sont arrivées sur la bande dessinée. J'invite bien sûr les auditeurs à continuer à envoyer leurs questions. Nous leur répondrons après le... Alors je vous invite, cher Guy, à chausser le casque. Mettez votre casque, on ne sait jamais, des fois qu'il pleuve des shrapnels ou
casque à pointe.
Ça tombe comme à gravelotte et il vaut mieux. Voilà, on va voir si notre intervenant spécial de ce soir est bien au rendez-vous fixé. Est-ce que vous êtes là, cher ami?
C'est moi le cher ami?
C'est vous, mon cher ami. Ah ben, vous savez, depuis que vous n'êtes plus là, mon cher Serge Beketch, le ton de la radio a beaucoup changé, en tout cas, c'est notre émission. Comment allez-vous, cher ami? Voilà, nous sommes réunis...
Étonnés.
Vous n'êtes pas fini.
M'entendez-vous, Miroslav?
Eh bien, je vous entends très bien. Et c'était d'abord pour vous saluer, puis montrer que malgré votre absence, qui est due simplement aux vacances, on ne vous oubliait pas, et que les auditeurs non plus ne vous oublient pas. Alors, j'ai devant moi un autre de nos complices habituels, à l'un et à l'autre, qui est Guy Louis-II, qui vient nous parler de la bande dessinée de droite. Et alors, on évoquait, il y a énormément de questions d'auditeurs, c'est d'ailleurs troublant, parce que le 16 août, on pensait qu'il n'y aurait personne, et bien pas du tout, il y a beaucoup, beaucoup de questions, et notamment sur le journal pilote dont Guy Louis-II nous a parlé tout à l'heure, et auquel vous avez, mon cher ami, collaboré.
Le mot interdit. Oui, j'ai collaboré à pilote. Oui.
Combien d'années avez-vous travaillé, Serge, à pilote?
Oh, je crois 5 ans.
C'est pas mal, quand même. Et qui faisiez-vous?
Pardon?
Qui faisiez-vous?
J'étais scénariste.
Vous étiez scénariste. Ça veut dire que vous écriviez...
C'est-à-dire que j'écrivais les histoires qui étaient dessinées par...
Jean-Marc Leroux.
Par Leroux, entre autres. Popé, Martial, et puis également les grands qui voudraient bien oublier qu'ils ont eu...
Un passage à pilote.
Exactement. On va pas les citer parce que ça leur fait tellement de peine que ça n'en vaut pas la peine, effectivement.
Alors Guy Louis-II disait que c'était un journal, au départ, c'est vrai que c'était un journal très intéressant, Pilote. Moi, je crois que j'ai dû acheter le premier numéro de Pilote. Je ne sais pas comment on faisait d'ailleurs à l'époque, puisque il y avait peu de publicité. Comment est-ce qu'on découvrait ça?
Il y avait la publicité. Mais si, il y a Radio Luxembourg.
Ah, c'était Luxembourg.
C'est Luxembourg qui avait lancé Pilote.
En quelle année ça a été lancé?
59. Octobre 59.
Octobre 59, donc j'étais déjà au lycée, c'est ça. Il y avait au milieu un truc qui était remarquable.
T'étais déjà né, Daniel?
Oui, j'étais déjà né.
Ah, oui. Alors au lycée, mais vous étiez prof alors?
Non, j'étais pas encore prof, mais j'étais déjà dans les grandes classes, mon cher Serge. En tout cas, il y avait un truc qui était remarquable dans il y avait beaucoup de choses remarquables dans Pilote. Il y avait le pilotorama qui était au milieu, et ça, c'était vraiment, vraiment, vraiment remarquable.
Oui, c'était formidable.
C'était un bel enjeu.
Et enfin, ça, c'était la première façon de Pilote.
Voilà.
Moi, j'ai collaboré à la deuxième.
Alors la deuxième, c'était déjà différent.
Ah, c'était bah,
la deuxième, c'était
orienté.
C'était un peu plus satirique, c'était de très bonne tenue. Je me souviens que j'avais fait un scénario, je crois que j'ai dû le raconter d'ailleurs, mais enfin j'ai le droit de radoter à mon âge. J'avais fait un scénario sur un lancement d'Apollo.
Oui.
Et vous savez, la fusée Apollo.
Oui. Non, on n'est pas connu.
Il se passait rien. Alors les journalistes se croyaient obligés de dramatiser tout ça en imaginant le pire à chaque épisode du lancement. Et s'il se passait ça, etc.
C'est remarquable.
Et Donc j'avais fait une espèce de pastiche de ça et je terminais. Ce qui m'avait frappé, c'est que les astronautes, en retrouvant le sol, la première chose qu'ils avaient faite, c'était qu'ils avaient fait une prière. Et j'avais imaginé un journaliste qui disait, maintenant il prie, c'est extraordinaire, il prie, et si Dieu n'existait pas ? Parce qu'à chaque fois c'était, et si les parachutes n'allaient pas s'ouvrir, et si la capsule n'allait pas flotter, et si, et alors donc, quand il commençait à prier, je disais, et si Dieu n'existait pas? C'était véritablement la catastrophe la plus terrible qu'on puisse imaginer. Et Goscinny, en regardant cette bande dessinée, m'avait dit, ah, monsieur de Beketch, je suis sûr qu'avec votre talent, vous allez trouver une chute tout aussi drôle, mais qui ne prendra pas le risque de choquer nos lecteurs catholiques.
Ah, c'est bien.
C'était vous dire à quel point c'était un homme qui était soucieux de...
Et il vous soyait ?
À tout le monde. Oui. Il appelait monsieur tout le monde et il vous soyait tout le monde, oui. Personnage. Il était d'une extrême courtoisie.
Grande urbanité.
Une extrême courtoisie. Ouais.
Grande urbanité. Grande urbanité.
C'est-à-dire que ça va paraître très curieux, mais l'homme auquel il me fait le plus... Enfin, l'homme qui me fait le plus penser à Goscinny, aussi bien par l'allure que par la façon de s'exprimer, que par... espèce de rigueur constante, c'est Jean Ferré.
Ben je pense qu'il
a... Ils ont beaucoup de points communs. Ça peut paraître paradoxal et curieux, mais c'est vrai.
Et ben je pense que ça ne choquera pas Jean Ferré d'être comparé à Goscinny, comme un personnage qui a beaucoup compté dans,
oui.
Dans l'histoire du journalisme, dans l'histoire de la bande dessinée.
C'est un très grand monsieur.
De grande qualité.
C'est vraiment un des hommes. Vous savez, il y avait dans la sélection du Reader's Digest dans le temps. Une chronique qui s'appelait l'homme le plus extraordinaire que j'ai rencontré. Et oui. Je pense que lui aurait mérité une chronique comme ça.
Ouais. Hélas. Alors, cher Serge, on ne vous a pas dérangé entre la nisette et les olives.
Malheureusement, c'est pas tout à fait le programme.
C'est pas encore l'heure. Bon, d'accord.
Non, c'est plus studieux que ça.
C'est très bien. Mais uniquement pour vous faire parler de bande dessinée, mais aussi peut-être pour d'abord que vous disiez un petit bonjour aux auditeurs. Je pense qu'ils auront plaisir à vous entendre. Et surtout, peut-être de nous livrer quelques commentaires que vous auriez fait au cours de votre séjour estival.
C'est très gentil de me faire cette proposition parce que vous savez que cette radio, c'est une véritable, j'ose pas dire drogue, mais c'est un peu ça.
Oui, c'est vrai.
C'est-à-dire qu'on a tellement l'habitude de dire, quand il se passe quelque chose, ah tiens, j'en parlerai mercredi à la radio, que quand on fait pas l'émission, quand je ne fais pas l'émission, j'ai une espèce de trop-plein de...
À dire.
De bile, de coups de colère, de... Et c'est vraiment assez difficile à supporter.
Serge, on aimerait bien avoir, pour le fait que nous vous avons par téléphone, et en attendant votre retour, qui ne saurait tarder, que plutôt de donner des coups de bile que de donner des coups de cœur. Il y a des choses extraordinaires qui se passent en ce moment.
Oui, il y a des choses extraordinaires.
Il faut positiver. Je disais tout à l'heure à nos auditeurs qu'on avait reçu un message du Canada. Puisqu'on a un auditeur qui nous écoute sur Internet et qui nous
a... On a un auditeur en Australie, je le signale.
Ah oui,
c'est un abonné du journal.
Alors
un abonné du Libre Journal et qui s'est abonné après avoir entendu l'émission sur Radio Cantonie.
Voilà.
C'est en Australie, c'est quand même pas mal. Et j'ai reçu une lettre de Chine également.
Ah bah ça c'est
donc là, on est vraiment la radio universelle. Oui, je me suis promené en France. Moi, j'ai beaucoup circulé en France ces temps-ci. Et j'en ai rapporté des sentiments mélangés. Le premier sentiment, c'est que c'est vraiment le plus beau pays du monde. Je sais que c'est un truisme de le dire, mais je suis allé dans le Mâconnais, dans le Morvan, dans le Perche, en Normandie, dans la Charente, dans le Périgord, dans l'Auxerre, en Corrèze, pour finir dans le Gard et dans le Roussillon et en Catalogne.
Qu'est-ce qui se passe? Vous avez acheté une petite automobile à frites ou vous faites les plages? Qu'est-ce que vous faites?
Non, j'ai pas acheté d'automobile. On m'a prêté une automobile avec un moteur à pétrole et j'en profite pour me promener. Je suis allé à beaucoup d'universités d'été, de rencontres, de rendez-vous, de choses comme ça. Et c'est vraiment un pays magnifique. Notre pays est une pure splendeur. Et pendant que j'étais en train de me promener et de faire ce constat qui manque totalement d'originalité, j'entendais par une radio, je vous en parlerai d'ailleurs tout à l'heure, que Jacques Chirac était parti passer ses vacances à l'île Maurice.
Oui.
Alors j'ai jamais pensé...
C'est dommage qu'il soit pas allé, excusez-moi, qu'il soit pas allé à l'île du Prince-Édouard, parce que là, c'est le Canadien qui, notre ami de Montréal, auditeur, qui nous dit ça, parce que le ministre Jean Chrétien vient de se faire entarter. Il y a une heure.
Ouais.
C'est amusant.
Oh non, mais ça serait trop gentil pour Chirac, je m'en partage. Non, vous savez, là, on a vraiment le signe que cet homme est un irresponsable complet. C'est véritablement un danger pour le pays. C'est un irresponsable parce que, d'abord, quand on est président de la République française, aller passer ses vacances à l'étranger, c'est un signe de connerie, il n'y a pas d'autre mot. Et en plus, quand on sait que le littoral atlantique a été mazouté, vient de subir ce qu'il a subi, et que c'est un cataclysme économique qui a frappé ce pays, que cet imbécile n'est même pas l'idée de prêcher d'exemple, et que nos ministres, ces espèces de socialistes, on a tout dit quand on a dit ça, de socialo-communistes, n'aient rien trouvé de plus urgent que de foutre le camp partout dans le monde, plutôt que d'aller dans cet endroit qui est sinistré pour montrer en quelque sorte l'exemple, pour prêcher l'exemple aux yeux des Français, c'est vraiment la preuve que ces gens-là sont des tarés au sens médical du terme.
En contrepoids de ce que vous dites, est-ce que je peux vous raconter une petite anecdote?
Oui, bien sûr. D'autant que c'est pas moi qui paye le titre.
Une petite anecdote. Vous vous souvenez, enfin vos souvenirs scolaires et historiques remonteront les mémoires que Damien avait tenté d'assassiner l'infortuné Louis XV. Le couteau n'était pas bien gros.
Le méchant moine.
Non, c'est Damien. Et évidemment, le pauvre Damien, malgré le désir du roi, a été écartelé de façon un peu sévère. Mais
il était écartelé grave.
mais il était. C'est un artésien. Il était d'Artois. Et le roi Louis XV, ne voulant pas que ce parricide qui avait été commis sur lui puisse rejaillir sur tous les habitants de l'Artois, a créé un nouveau titre, qui n'existait pas d'ailleurs dans la couronne de France. Il a créé le titre de comte d'Artois, qu'il a donné à son troisième petit-fils.
Ah, c'était joli ça.
Pour montrer que...
C'est une autre classe.
Voilà. Ouais. Un autre pays, surtout.
Autre pays et autre classe. Ouais. Continuez, Serge, pardon de cette interruption.
Eh bien, l'autre constatation que j'ai faite, c'est que ce pays magnifique, cette splendeur qu'est la France, qui est le fruit de 2000 ans au moins de travail et d'aménagement du territoire, comme on dirait maintenant, est malheureusement occupé par des gens qui sont de plus en plus des imbéciles. Et je vais employer un mot terrible. Si j'étais raciste, on pourrait lui accorder un arrière-plan douteux, mais c'est pas le cas du tout. La France, comme on aurait dit au temps de la coloniale, la France se bougnoulise. C'est-à-dire que vous voyez des gens qui sont des Français comme vous et moi et qui sont en train de se déguiser en n'importe quoi. Alors, on voit des filles blondes avec des tresses africaines. On voit des gens, des jeunes hommes avec du piercing. Maintenant, vous savez ce que c'est, le piercing?
Ben écoutez, je sais ce que c'est, mais j'en ai des frissons dans le dos, il y a de penser. Voilà.
Et ils ont ça partout. Oui. Vous avez des gens tatoués.
Oui, l'autre jour, j'ai eu un postier.
Mon cœur est tatoué.
Un postier qui est venu m'apporter du courrier. Celui-là, je l'ai vu qu'une fois d'ailleurs. Et il avait un piercing sur le, comment dire, qu'on s'appelle l'arcade sourcilière, là. Je lui ai dit, mais ça fait mal? Il m'a dit, ah, non, pas du tout. J'ai dit, approchez, je vais vous tirer. Et le type a fait un bond en arrière. Ouais, et je ne l'ai plus jamais revu. Ils ont changé de postier.
Oui, ils sont très drôles. Ce genre de déguisement. Ils se trémoussent sur des rythmes de bêtes sauvages.
Pas partout, parce qu'il y a eu quand même en Bretagne, là, il y a eu les
festivals celtiques. Oui,
c'est pas mal, ça.
Vous avez entendu qu'il a dit que c'était fini, il ne le ferait plus.
Ah bon?
Eh oui, c'est fini. Probablement, ça doit sembler quand même un petit peu
un petit peu trop, oui.
C'est un petit peu blanc-blond, bleu. Ouais. Et donc, on voit... Alors, tout ça, naturellement, ce qui est terrible, d'ailleurs, dans cette affaire, c'est que c'est le peuple dans ce qu'il a de plus simple qui est atteint. Et ce qui est très curieux, c'est que c'est une question de génération. C'est-à-dire que on a l'impression que les générations sont à peu près épargnées à partir de 60 ans. Oui. Mais vous voyez aujourd'hui des hommes de 50 ans, de mon âge, je dis pas du vôtre parce que vous êtes beaucoup plus jeune, mon cher Daniel.
Faut mieux entendre ça que
des hommes d'un certain âge, avec des queues de cheval, du piercing, des tatouages et comble de sottises crasses, des tatouages, des faux tatouages. Et j'ai vu des faux piercings. C'est-à-dire que, vous savez, on faisait dans le temps ces boucles d'oreilles.
Oui, oui, les trucs qui clippaient, quoi. Enfin,
qui clippaient. Ouais. Alors maintenant, on fait des pires singes comme ça. C'est-à-dire que pour avoir l'air d'un singe, on achète un faux pire-singe le temps des vacances. J'ai pas encore vu de fausse queue de cheval, mais je pense que je vais en trouver.
Tirez,
et vous voyez ces pauvres abrutis qui se promènent avec leur queue de cheval, leur piercing, leur tatouage. C'est pathétique. C'est pathétique, ouais. Et ça vote.
Et ça vote, ça, monsieur. Oui,
ça. C'est ça qui est pire que tout.
Je pense
que ça vote. Et qu'on va nous expliquer que la démocratie, c'est normal, car tout citoyen doit avoir le droit à l'expression. Et moi, je prétends que quelqu'un qui n'est pas capable de gérer son allure mieux que ça, il ne doit surtout pas s'occuper de gérer son pays.
C'est clair.
Il doit laisser faire ça à des gens qui sont nés là-dedans.
Oui, oui. Qui sont plus nets.
Mais et vous... d'ailleurs, je ferai la remarque que c'est en train de... Comment dirais-je la réalité est en train de rejoindre nos espérances les plus folles, puisque... Le pays qui, par définition, incarne la démocratie et qui a une horreur sacrée, si j'ose dire, de tout ce qui est monarchique ou aristocratique, et qui est les États-Unis d'Amérique, ils sont en train de redécouvrir les mérites de la dynastie.
Oui, oui, tout à fait.
Car ils ont eu Bush et ils vont avoir un Bush, qui est le fils du précédent. Et c'est pas plus mal, d'ailleurs, parce que, bon, son père n'a rien fait de bon, mais quand on voit Al Gore, on se dit que...
Oui. Avec un nom comme ça, déjà, ça fait quand même fait un peu trash.
Ça peut pas être pire. Et puis surtout, on s'est dit que lui, au moins, il aura vu son père travailler. On peut espérer qu'il aura appris une ou deux choses.
Attends, je précise pour nos auditeurs, Serge, que gore en anglais, ça veut dire vraiment...
l'horreur sanglante.
Ouais, l'horreur sanglante, les films gore, c'est les films
grands. C'est le grand guignol.
Quoi. Et alors, il suffit de rajouter un petit accent grave, et alors on a Al Gore.
Oui, c'est ça. Mais on imagine en France... et lire un président qui s'appellerait le président Albert Grand Guignol. Vous voyez ? C'est ça qui se passe aux États-Unis. Bon, heureusement, je pense pas qu'il va être élu. Remarquez, il vaut mieux que je me taise, parce qu'en général, quand je fais des pronostics,
oui,
ils sont aussitôt éliminés par la réalité.
Et oui, tout ça vote. Mais je peux vous faire juste encore un commentaire, parce que bon, hein, on peut encore parler au téléphone. J'ai lu dans les étranges gazettes hier un marabout, alors je sais plus, c'est en région parisienne.
Ah,
okay. Un type qui vient de se faire serrer aux pattes, un marabout qui venait, je sais pas, de Côte d'Ivoire, machin truc.
De la forêt profonde.
Était vraiment, ce type était, moi je trouve que c'était une espèce de génie de l'escroquerie, quoi. Et il faisait des retours d'affection, tous les trucs. Alors il y avait des dames, mais des
Il y en a qui font des retours d'âge,
Des retours d'affection. Et ben, justement, c'est des dames qui étaient en retour d'âge, que c'est la moyenne d'âge, c'est 53, 57 ans. Alors la dame qui avait 57 ans, pour le retour d'affection, il fallait qu'elle donne 57 billets de 500 francs, 57 billets de 200 francs, 57 billets de 100 francs, 57 billets de 50 francs. Bon.
Il
y en avait une autre qui n'avait que 50 ans. Donc c'était 50 billets de 500 francs, 50. Et alors, qui est le plus à condamner ? Qu'il soit africain, qu'il soit guatémaltèque ou qu'il soit d'ailleurs, bon. Mais qu'il y ait des imbéciles comme ça pour se faire prendre à ce genre de sottise. Mais c'est ces gens-là, ils ont ce qu'ils méritent. Pourquoi ils vont porter plainte ?
Oui, enfin, moi je vais enfourcher mon vieux dada, vous comprenez ? Le grand match de la sorcière, de la forêt africaine. S'il fait ça dans un village de la forêt africaine, personnellement, je m'en fous comme de ma c'est première vrai. Chemise. S'il reçoit une dame sur le retour de son village et qu'il lui prend 57 calebasses et 57 poulets et bicyclettes et 57 mangues, ça me gêne pas du tout. Où ça commence à me gêner, c'est quand ces gens-là viennent, touchent le RMI, touchent les allocations familiales, touchent l'aide au logement et vendent de l'espoir à des pauvres femmes malheureuses, quoi.
Est-il plus condamnable que le président de la République ou nos politiciens qui aussi ne font que mentir
et entraînent
encore
République,
davantage allez-y
je voudrais encore dire une chose puisque j'ai commencé à être gentil avec lui c'est que il faudra moi je trouve qu'il est pas chic avec les Français parce que voilà un homme qui à l'heure actuelle gagne 75 000 francs par mois
c'est
le salaire d'un président de la République. Quand il était député, avant il était ministre, député, enfin il a toujours vécu au crochet de la République, mais ses revenus n'ont jamais dépassé, vraiment, c'est impossible, 100 000 francs par mois. Hein. Je sais même pas s'il a été européen, député européen, on doit arriver, en coupillant bien les indemnités de déplacement, on doit arriver à peu près à 110, 120 000 francs comme député européen. C'est pour ça que la place est si recherchée. Eh bien, voilà un homme qui, en tout cas, n'a certainement jamais gagné plus de 100 000 francs par mois. Et là, il est parti en vacances à l'île Maurice, où on nous apprend, c'est pas moi qui le dis, c'est Paris Match, qu'il est dans une chambre, enfin dans une suite, à 25 000 francs la nuit. Ben, vous avez entendu ce que je viens de vous dire.
Alors on parle des 25 000 francs d'aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire
25 000 francs d'aujourd'hui, 2 500 000 francs pour les d'accord. utilisateurs du centime qui devraient quand même commencer à penser sérieusement au, au nouveau franc parce qu'il leur reste plus qu'un an pour s'en servir. donc 25 000 francs. Et on apprend, toujours par Paris Match, qu'il a acheté des tapis pour 400 000 francs. 40 millions pour les amateurs de centimes. Alors, moi je trouve qu'il est pas chic parce que moi je voudrais bien qu'il m'explique comment il fait. Et je pense que les Français seraient contents. Par exemple, un Français qui gagne 7500 francs par mois, c'est-à-dire 10 fois moins que lui, serait content de savoir comment lui pourrait se payer une chambre d'hôtel à 2000 francs par jour. C'est-à-dire 10 fois moins que ce qu'il dépense à l'île Maurice. Parce que le calcul est quand même assez vite fait, hein. C'est-à-dire que pour passer un mois de séjour, autrement dit 30 fois 20 000 francs, ou 30 fois 25 000 francs, je vous laisse faire le calcul, ça fait 750 000 francs.
Oui.
C'est ça?
J'espère, 30 fois 25 000, ça fait 750 000 francs.
Enfin, l'ordre de grandeur est bon, en tout cas.
30 fois 25 000, ça fait 750. Donc ça fait 750 000 francs pour un mois.
C'est coquet.
Donc voilà un homme qui va être obligé d'économiser la totalité de ses revenus pendant 10 mois, sans boire, sans manger, sans rien, sans payer d'impôts bien entendu, sans payer de loyer, mais ça il est logé à l'Élysée, j'espère qu'ils font pas payer un loyer. Et arrivé en vacances, il va tout craquer en un mois pour vivre dans un hôtel confortable, certes. Mais comment il va faire pour bouffer le reste du temps? Alors heureusement qu'il y a des dîners officiels, des choses comme ça. Ou alors c'est qu'il a un truc. Et alors ce truc, je le supplie à genoux de le donner aux Français. Il n'y a pas de raison qu'il le garde pour lui tout seul.
Oui, ce serait bien, bien aimable, bien urbain de sa part. De
voilà, ce serait gentil. Moi, j'aimerais bien le savoir.
Alors, il paraît que le Paris Match a présenté ses excuses à la présidence de la République, mais que les journalistes ont contesté les excuses présentées par l'hebdomadaire.
Oui, oui.
Les petites poupées russes, quoi.
Tout ça c'est normal, tout ça dans la nature des choses.
En
tout cas, je crois qu'il est vrai qu'il est allé à l'île Maurice et qu'il a payé les prix. En tout cas, je connais cet hôtel puisque une autre personnalité importante s'y était rendue, s'en était fait virer d'ailleurs à coup de pierre.
Ah oui, oui, on voit de à qui vous...
Donc c'est bien, bel et bien les prix pratiqués.
Eh ben.
C'est un endroit intéressant. Je pense pas que j'irai. En dehors des photos de Paris Match, je vois pas beaucoup d'occasions de le fréquenter, pour moi, cet hôtel-là. Voilà, et puis je voulais dire quand même, comme je ne peux pas écouter Radio Courtoisie et que mon poste est défaillant, j'ai été bloqué sur France Culture.
Aïe.
Alors, c'est quelque chose d'incroyable.
Ah, oui.
Mais c'est absolument incroyable. C'est-à-dire que c'est une radio marxiste à 100%. Avec des programmes toute la journée qui sont des programmes de propagande marxiste à 100%, et quand on sort de la propagande marxiste, c'est uniquement pour évoquer les heures les plus sombres de notre histoire.
Oui, c'est vrai, bien sûr.
Et naturellement, l'extraordinaire effort de résistance accompli par les communistes, les trotskistes, et un petit peu les socialistes pendant cette période. Mais c'est un point invraisemblable. Alors, ça n'a aucun caractère de gravité, puisqu'en dehors des gens qui sont victimes d'un mauvais poste à transistor comme moi, personne n'écoute cette radio. Mais la question qui se pose, c'est celle du financement, parce que c'est financé avec les impôts des Français.
Avec nos sous, oui, bien sûr. Oui.
Et je vois pas de quel droit les communistes et les trotskistes se font payer leur radio privée par tous les contribuables. Radio Courtoisie n'est pas payée par les contribuables, c'est payé par les auditeurs. Donc, je pense qu'il devrait faire comme nous, être payé par les auditeurs. Moi, je paierai pas parce que je peux pas faire autrement que de l'écouter. Il y aurait donc probablement un auditeur qui paierait et on verra si France Culture peut continuer à fonctionner avec 250 francs par an.
Vous êtes aussi pour la privatisation de
oui,
toutes les chaînes officielles.
Oui, je suis pour la privatisation de la propagande fasciste de gauche parce que c'est exactement ça. Et en plus, ce sont des crétins ignares qui font ça parce que j'ai appris en écoutant cette radio que la bande à Bono les gens de la bande à Mono avaient été assassinés par les sbires du préfet Lépine en 1925. Voilà. Et j'ai appris d'autre part, qu'est-ce que j'ai donc appris encore qui m'a quand même laissé pantois? Enfin, quelque chose du même genre. Ils font facilement des erreurs de 50 ans ou 70 ans dans les dates. C'est absolument n'importe quoi.
Ce sont des nullités.
Et tout ça est entrelacé de musique de tous les pays du monde, sauf bien entendu la France, qui est un pays maudit, comme chacun sait. Alors vous entendez la musique africaine, la musique sud-américaine, la musique cubaine, avec naturellement un gros point d'avantage pour la musique cubaine, et c'est ça toute la journée. Et c'est véritablement insupportable. J'ai entendu, par exemple, pendant une semaine, on a eu un portrait de Jean Jaurès par Madeleine Robériou.
Oui, aïe, aïe. Oui.
C'est-à-dire, c'est la vieille stalinienne qui nous a expliqué que Jean Jaurès était le plus grand homme que la Terre ait jamais porté.
Il était de bonne taille quand même, je crois, autant que je me souvienne. Ouais. Il dépassait 1m80, oui.
Oui, je sais pas. En tout cas,
il y a eu beaucoup de...
Il dépassait le 1m80 avant l'attentat, parce qu'après il était beaucoup moins...
Oui, après il était plus... Après, oui, c'est... Oh, c'est drôle.
Bon, on fait ce qu'on peut, hein, on est au mois d'août, hein, donc...
Oui.
Enfin, ce siècle a donné beaucoup d'hommes grands qui n'étaient pas des grands hommes.
Ah, bravo Hugues de Soicourt, il est bien Hugues de Soicourt, hein. Des fois comme ça, ça lui
passe. Il est très très bien ce garçon.
Il est pas mal le livre avec
son interview de Adeline est un pur chef-d'œuvre professionnellement.
Merci beaucoup.
C'est d'une intelligence, non mais je le dis vraiment, c'est d'une grande intelligence et ce bouquin devrait être lu par tout le monde. Et je dis bien par tout le monde.
C'est vrai.
On apprend quand même des choses extrêmement intéressantes en le lisant.
Alors on rappelez-le, puisque voilà, Serge vous fait de la publicité.
On va en reparler,
donc c'est La droite où l'on n'arrive jamais.
La droite où l'on n'arrive jamais. Oui. Et ben enfin, quand on a lu ce bouquin, on est plutôt content de pas y arriver d'ailleurs, parce que franchement, il n'y a pas grand-chose à sauver. Hein.
Alors juste un message d'une auditrice qui dit qu'elle est très heureuse d'entendre Serge Bekech au téléphone. Il nous manque.
Alors je sais que c'est pas ma femme, parce que ma femme n'a pas le téléphone.
Non, voilà. Et qu'il nous revienne en forme. Voilà, cette auditrice, nous sommes là le 16 août, parce que, étant à la retraite, nous sommes en vacances toute l'année. Oui, c'est pas tout à fait vrai, parce que je sais que les retraités, généralement, sont des gens très
actifs. C'est une gentille façon de voir les choses, mais je crois effectivement que la retraite n'est pas une période de vacances.
Non.
Voilà.
Alors, encore des commentaires, mon cher Serge.
Oh, bah écoutez, je pourrais vous en parler longtemps de mes rages, mais j'essaye de me calmer parce qu'en général, c'est au volant, parce que comme vous l'avez remarqué, j'ai pas mal circulé. Et la colère au téléphone, c'est comme le téléphone portable. La colère au volant, c'est comme le téléphone portable.
C'est dangereux.
C'est pas très très bon.
Oui, c'est dangereux.
Donc, voilà. Non, l'histoire corse m'a réjoui au-delà de toute expression, enfin, tristement réjoui. Parce que c'est absolument ce que j'avais annoncé, qui se passe. C'est-à-dire que Jospin a cru qu'on pouvait négocier avec des gangsters. C'est la mafia, tout simplement, qui tient le haut du pavé en Corse, et cet imbécile croit qu'on peut négocier avec la mafia. Or, la négociation avec la mafia, c'est très simple. La mafia, c'est « donne-moi ta montre, je te donnerai l'heure
».
Et quand on leur demande l'heure, ils disent « maintenant, il faut payer pour que je te donne l'heure ». Voilà. « Donne-moi tes chaussures, je te donnerai l'heure ». Donc, on est sûr d'être perdant, et c'est toute la Corse qui va être perdante, et c'est tous les Corses qui vont être perdants dans cette affaire.
Alors
c'est
que la majorité des Corses est absolument opposée à toute idée.
Et les conséquences en seront tragiques.
Bien sûr,
pour la France. À tout point de vue. Hier, j'étais dans un restaurant où j'entendais une jeune fille, par ailleurs parfaitement idiote, mais enfin ça c'est en dehors du débat, qui expliquait à son petit ami à la table à côté qu'elle allait s'inscrire à l'université à des cours de catalan à la rentrée parce qu'il était urgent d'apprendre le catalan pour avoir une langue à parler quand on serait indépendant.
Ouais.
Voilà. Enfin... voilà le genre de choses qu'on entend aujourd'hui. Et effectivement, il est très probable que d'autres régions de France vont demander leur indépendance.
Ben c'est ce que veulent l'état-major de Bruxelles, enfin, et ce que veut la mondialisation.
C'est vous rappelle que, non, tout c'est ça, pas c'est Bruxelles, les... là, attendez, là,
non,
il faut
non,
pas
mais c'est plus que ça, c'est parce que, oui,
au lendemain de l'Algérie, tous les gens raisonnables, au lendemain de l'abandon de l'Algérie, tous les gens raisonnables qui avaient, c'est-à-dire un peu plus de 1,50 g de matière cérébrale dans la boîte, dans la boîte crânienne, avaient dit, le stade suivant, c'est la Corse.
C'est vrai.
Et c'est ce qui est en train de se passer. Et après la Corse, ça sera, alors là on ne sait pas, ça sera la Lorraine, l'Alsace, la Bretagne, le Pays Basque, la Catalogne, le territoire libre de Charroux dans l'Allier, où je pense que le professeur Lugan finira par demander l'indépendance de sa ville.
Jean-Christian et... Petit-Fils, que j'ai reçu à plusieurs reprises dans le cadre de votre émission, Serge, qui est un historien que j'apprécie beaucoup, a fait une tribune libre dans le Figaro. Il disait que l'indépendance de la Corse, c'était le retour, pour la France, c'était le retour à l'an 1000. Et ben, oui, je trouve qu'il a absolument raison.
Oui, c'est le démantèlement du seul État-nation qui restait.
Tout à fait.
Et c'est une tragédie, mais... On voit agir ces gens-là, on voit agir cette racaille, il n'y a pas d'autre mot, à travers des événements qui paraissent comme ça secondaires. Par exemple, l'histoire du Concorde, c'est évident que il fallait que ce soit un ministre communiste qui décide la mort du Concorde. Et ce qui me frappe, c'est encore une fois la formidable sottise d'un système qui accepte ça, qui dit oh oui mais c'est normal, vous, les gens vous disent ça quand vous en parlez avec eux, oui mais vous comprenez, c'est normal après cet accident. Mais quand vous leur dites, mais pourquoi on n'interdit pas tous les Boeing ou tous les Airbus?
Toutes les voitures, tous les autocars, tous les autobus.
Enfin, alors ils vous disent mais c'est pas pareil. Et le mot c'est pas pareil, pour moi ça devrait être un mot qui vous conduit directement à l'échafaud. Vous savez c'est le signe, comme il y a des signes cliniques par lesquels on reconnaît certaines maladies, et la connerie elle se reconnaît à ce signe clinique du c'est pas pareil. Donc le type qui dit c'est pas pareil, on lui dit monsieur on est désolé, on peut plus rien pour vous, on va vous faire une piqûre maintenant. Parce qu'au stade où vous en êtes, il faut protéger la société. Voilà.
Bon, eh bien, écoutez, on a été très très heureux de vous entendre. On tâchera de refaire un autre rendez-vous téléphonique.
Vous mentez très bien.
Non. C'est vrai que c'était bien agréable. En tout cas, je crois que ça fait plaisir aux auditeurs de savoir que vous aviez toujours du punch, quoi. Puis vous étiez en train de vous faire une santé pour reprendre votre micro.
Oui, ça va bien.
Sitôt qu'on le pourra. Voilà, et eh bien écoutez, je vous...
Eh bien, comme on disait là-bas, je vous embrasse à tous. Et tout spécialement à Guy Le Hideux, que j'aime beaucoup.
C'est gentil, Serge.
Moi aussi. Il vous le réciproque. À bientôt,
voilà,
mon cher.
Et puis j'embrasse à tous les auditeurs aussi, bien entendu.
Allez, que Dieu
à bientôt.
À bientôt.
Et ben voilà, c'était donc la petite surprise du...